Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre à bord de Wagon Livre sur Radion. 131e numéro de votre émission littéraire pour un compte-rendu d'un salon qui s'est tenu les 28 et 29 septembre dernier au château du Clos de Vougeot en Côte d'Or. Il s'agit de Livres en Vigne, 6e édition, une belle et grande fête du livre au cœur du vignoble bourguignon. Cette année, Livres en Vigne était présidé par David Fuenquinos, l'auteur de La Délicatesse et de Je vais mieux, son dernier roman aux éditions Gallimard. Une manifestation orchestrée depuis sa création par Evelyne Philippe et parrainée par les ministères de l'Agriculture, du Tourisme et de la Culture, soutenue également par le Conseil Régional de Bourgogne et de nombreux auteurs partenaires publics et privés. Ce soir, nous tenterons de vous faire entendre des figures nationales, tandis que l'émission de mercredi prochain donnera, elle, la parole aux auteurs bourguignons. Alors, au programme de notre wagon livre ce soir sur Radion, des interviews avec Delphine Bertholon, Jean-Charles Chapuzet, pour un polar dont l'intrigue nous conduit dans les vignobles des Côtes-du-Rhône. Nous aurons également le plaisir de revisiter l'exceptionnelle carrière du musicien Django Reinhardt, que retrace la biographie romancée d'Alexis Salatko aux éditions Robert Laffont. Et puis, nous avons tendu notre micro à Pierre Péju à l'occasion de la parution de son dernier roman, L'état du ciel, chez Gallimard, l'histoire d'un ange qui vient mettre un peu d'huile pour favoriser la mécanique du miracle dans un couple au bord de la rupture. Mais nous ouvrons notre rendez-vous culturel avec celui qui, durant des années, anima sur Antenne 2 la fameuse émission Apostrophe. Il s'agit, vous avez bien évidemment retrouvé son nom, il s'agit de Bernard Pivot, venu au château du Clos de Vougeot dédicacer son dictionnaire amoureux du vin aux éditions Plon.
Ça a pris 3 années de ma vie, mais je ne faisais pas que cela, mais c'était très agréable travailler en accumulant la culture sur le vin, sur son histoire, sur ses rapports avec les civilisations, avec les religions, tout ça c'est très agréable. Et je me suis beaucoup instruit en écrivant ce livre.
Alors comment fait-on les choix? On est obligé quand même un peu de mettre de côté certaines...
Mais on fait les choix par sympathie, par amour, par le vin c'est un dictionnaire amoureux, donc amoureux ça veut dire qu'on délaisse ce qui ne vous plaît pas et on retient ce qui vous enchante. Donc j'ai suivi exactement la même façon. Quand soit j'ignorais, soit telle chose sur le vin me déplaisait, je n'en parlais pas et je parlais au contraire des aspects positifs du vin et de ses rapports avec la culture.
Alors votre rapport au vin, c'est un rapport qui est gastronomique, affectif, littéraire aussi. On associe certains vins à des écrivains ou à des souvenirs de lecture.
Mon rapport, d'abord, il est gustatif. Hein. Il est gourmand. J'aime le vin parce que c'est bon à boire et parce que c'est tout un domaine de la culture dans lequel on se plonge, dans lequel on revient, on fait des découvertes, on compare. Et puis le vin, c'est un phénomène culturel, donc c'est aussi très agréable de s'informer là-dessus. Et puis le vin, c'est un des liens extrêmement étroits avec l'histoire, avec la géographie, avec les sciences naturelles, la géologie. Et puis aussi les arts, la musique, l'opéra et la littérature, bien entendu. Et beaucoup d'écrivains français, comme tout le monde le sait, se sont illustrés dans la célébration du vin.
Bernard Pivot, vous êtes plutôt Bordeaux, plutôt Bourgogne, parce qu'il y a quand même un vieux débat, une sorte d'affrontement quand même entre ces deux grandes marques de vin.
Oui, cet affrontement m'a toujours paru stupide. Car si on peut aimer le Bordeaux et aimer le Bourgogne en même temps, je pense que les gens qui détestent tel vignoble et préfèrent tel autre, ne boivent pas du vin de tel autre, sont des hémiplégiques de l'esprit et du goût.
Bernard Pivot, comment sentez-vous cette rentrée littéraire? Vous avez lu beaucoup, vous qui êtes membre de l'Académie Goncourt?
Oui, bien sûr, oui, j'ai lu beaucoup, mais ça c'est normal, c'est mon boulot.
C'est alors. Ça, vous n'avez fait que ça?
Non, j'ai pas fait que ça, mais j'ai lu beaucoup, oui, bien sûr. J'ai lu une cinquantaine de livres en course pour les prix littéraires de fin d'année et en particulier pour le Goncourt.
Donc vous ne soufflez jamais finalement, vous ne quittez jamais les livres?
Non, pourquoi voulez-vous que je quitte les livres?
Je ne sais pas, ils n'ont pas trop envahi votre vie?
Non, pas du tout, ce sont des compagnons agréables, je ne vois pas pourquoi je les répudierais.
Bernard Pivot, au micro de votre émission littéraire à l'instant, Bernard Pivot qui signe chez Plon un dictionnaire amoureux du vin, qui pourrait d'ailleurs constituer un excellent cadeau pour les fêtes de fin d'année. Voilà, une petite idée en passant. Nous restons dans la thématique du vin, et pour cause, parce que cette thématique du vin a toute sa place au cœur de Livres en Vigne, 6e édition qui s'est tenue au château du Clos de Vougeot les 28 et 29 septembre dernier. Nous partons, si vous le voulez bien, sur le chemin des vignes, mais aussi sur le chemin du polar, avec le dernier roman de Jean-Charles Chapuzet, qui a pour titre « À l'aveugle » aux éditions Glénat. Faisons, si vous le voulez bien, connaissance avec Jean-Charles Chapuzet avant d'aborder l'intrigue de ce polar au cœur du vignoble des Côtes-du-Rhône.
Je vis près de Cognac, je suis journaliste et écrivain. Mon métier de journaliste, on va dire, m'emmène sur trois domaines, la géopolitique, le vin et la littérature, trois domaines qui n'ont pas forcément de rapport, ça dépend. Et c'est mon deuxième polar. Le premier était axé sur le chanteur Hubert-Félix Thiéphaine, où de Ripoux devait traquer un poète jurassien qui avait enlevé une sirène, Lorelai. Et là, cette fois-ci, c'est un roman qui s'inspire de faits divers qui se passent dans le milieu du vin.
Alors c'est 40 hectares de grenache au domaine de Ratacan, c'est cela, qui sont dérobés nuitamment, avec un personnage enquêteur qui lui-même a connu la prison. Pour quelle raison Hippolyte Lapac a-t-il connu l'emprisonnement?
Alors pour quelle raison? Il a tué d'abord deux cambrioleurs qu'il a surpris chez lui. C'est amusant puisque c'est malheureusement d'actualité aujourd'hui avec l'affaire du bijoutier de Nice. Bon, c'est surtout que je voulais avoir un personnage pour lui donner un peu plus de crédit dans sa façon d'enquêter, qu'il ait du passé, qu'il ait bourlingué, qu'il ait vécu, qu'il soit moitié flic, moitié voyou.
Alors, il semblerait tout de même qu'il y ait, on peut dire, des actions assez néfastes quand même dans les milieux de la viticulture. Il peut y avoir des destructions de palissades. C'est une réalité, par exemple, ce vol nocturne ou cette vendange nocturne ou...
Alors, ça peut arriver. C'est vrai que, comme tout secteur, le secteur de la vigne et du vin n'échappe pas aux dérives de certaines de l'humanité. Donc, dès qu'il y a un petit peu d'argent, des enjeux, il peut y avoir aussi des conflits familiaux. C'est surtout l'ambiance autour de ce fait divers. Hein. Ça m'a permis d'y adjoindre des histoires, une histoire d'amour. Et puis, c'est vrai, au-delà de cette vendange clandestine, il va se retrouver plongé dans une histoire dont il ne s'attendait pas du tout à une telle importance.
Dans votre roman, dans votre polar, dont je rappelle le titre « À l'aveugle », vous écrivez « Un homme qui travaillait la terre et la vigne méritait d'être béatifié ». Enfin, c'est pas vous spécialement, mais vous devez forcément le penser aussi.
Oui, ce sont les phrases de Lapac. Et Lapac, c'est un journaliste vin. Il a un respect énorme envers ceux qui travaillent la terre, les paysans. Hein, c'est évidemment un terme qui est tout sauf péjoratif. Et ces gens-là sculptent les paysages. On l'oublie souvent quand je vois la classe politique française à quel point elle ne prête pas attention à ce secteur. Elle le diabolise d'ailleurs avec la loi Evin et peut-être l'idée d'une taxation à venir. Eh bien ça c'est problématique. C'est le deuxième secteur à l'export. Faudra pas oublier. Regardez tous nos paysages. Nous sommes ici en Bourgogne. Sans le vin, la Bourgogne ne serait pas la même région.
Donc, il n'y a pas la même silhouette, le même attrait aussi.
Exactement. Et puis, le même attrait, cette même notoriété dans le monde entier. Vous vous rendez compte que la Romanée-Conti est connue dans le monde entier.
Jean-Charles Chapuzet, vous évoquez un bar, c'est le Délirium. Absolument formidable. C'est pas l'intrigue principale, mais vous en parlez dans le roman. Alors, c'est inspiré de quelqu'un qui réellement essaie de mettre des formules sur des sentiments, et il y a un comité de goûteurs de larmes. Ça, c'est extraordinaire. Parlez-nous-en un peu, s'il vous plaît.
Et le pire, c'est que c'est vrai. Voilà, encore une fois, je m'inspire de choses qui ont réellement existé, qui existent toujours. C'est un bar très tendance aujourd'hui dans les ruelles d'Avignon, rue Mignard, le Delirium, tenu par deux frères, dont un est mathématicien et artiste, et il s'amuse à mettre sur des formules sur des sentiments, et il a notamment créé un sorte de cercle de goûteurs, dégustateurs de larmes. Comme on peut goûter le vin, goûter les larmes, savoir si ces larmes sont de joie, allergiques, de pleurs, de drames, est-ce que ce sont des larmes de filles de l'Est, est-ce que ce sont des larmes d'Américains, on s'amuse.
Et puis vous parlez aussi des étiquettes de vin en braille.
Alors les étiquettes de vin en braille, c'est surtout Michel Chapoutier, ce fameux négociant des Côtes-du-Rhône, qui a fait ses étiquettes en braille il y a maintenant deux décennies peut-être, et ça a été évidemment un succès marketing immense. Bon, ça fait partie de l'intelligence de ce négociant, hein, de ce vigneron qui est Michel, et bon, qui a toujours plein d'idées, et pour se démarquer, c'est exceptionnel.
C'était Jean-Charles Chapuzet pour son polar À l'aveugle, que vous trouverez en librairie aux éditions Glénat. À suivre dans Wagon Livre, une interview de Delphine Berthollon pour Le soleil à mes pieds, roman disponible aux éditions Jean-Claude Lattès. On se retrouve dans une poignée de minutes. Restez avec nous pour l'instant. On vous laisse en compagnie de Aldebert, Les coups de pied à la lune. Bonne soirée sur Radion.
Cheminions à pas de loup, usant les sentiers de l'enfance, piquer des planches et quelques clous dans les chantiers des résidences, construire tout en haut du noyer, bien plus qu'une cabane classique, un grand complexe immobilier avec une vue panoramique. Cette maison dans le vide, c'est notre lune suspendue. D'ici les lumières de la ville sont des millions d'étoiles déchues. Nos pieds qui pendent dans la nuit tracent des plans sur la comète. Demain, j'embrasserai Fanny. Rien n'est moins sûr, mais c'est peut-être. Aux étendards en haut des cimes, aux heures de gloire où l'on ranime Tom Sawyer, Huckleberry Finn. Grâce à nos talents de faussaire, des mots d'excuses faits maison nous autorisent à prendre l'air, le cul posé sur l'horizon. Les premières filles que l'on bécote sont des actrices de cinéma, comme les menthols que l'on crapote sont les cigares de Cuba. Quand les chagrins se tirent la bourre, nous grimpons ici l'oriflamme. Le vent dans les feuilles est toujours le plus apaisant des programmes. Ainsi perchés dans les hauteurs, les rêves nous montent à la tête. Plus tard, on sera voltigeurs, rien n'est moins sûr, mais c'est peut-être. J'ai retrouvé cette semaine notre complexe immobilier, digéré par le lichen, notre drapeau, les clous rouillés. Alors si l'on doit faire le deuil de notre villa de fortune, reste le vent dans les feuilles et les coups de pied à la lune. 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 Elle écoute à la lune, 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 elle écoute à la lune. Elle écoute à la lune.
Très bonne soirée à toutes et à tous. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire chaque mercredi sur Radion. Nous sommes avec vous jusqu'à 22h pour vous offrir un aperçu de la 6e édition de Livres en Vigne, fête du livre, qui s'est tenue les 28 et 29 septembre dernier au château du Clos de Vougeot. Cette édition était, je vous l'ai dit, présidée par l'écrivain David Fuenquinos, que vous entendrez un peu plus tard au cours de notre rendez-vous. Et pour l'instant, nous vous proposons de partir à la rencontre de Delphine Berthollon, qui signe aux éditions Jean-Claude Lattès un roman intitulé « Le soleil à mes pieds », l'histoire de deux sœurs marquées par un traumatisme commun.
Oui, c'est vrai qu'elles sont, comme vous disiez, sans déflorer, liées par un traumatisme commun de toute petite enfance, où la petite avait 4 ans et la grande 6. Et de fait, elles se sont construites finalement de manière complètement opposée, à partir d'un traumatisme commun. Elles ont choisi chacune une voie complètement différente, la grande vers la mort, vers le noir, vers la nuit, et la petite vers le jour, qu'elle n'arrive en tout cas pas à assumer pour l'instant.
Alors la grande, bon, elle a fait des études d'infirmière, la petite, elle n'a pas fait grand chose.
Non.
La grande, alors ça m'a fait sourire, mais j'ai trouvé ça tout à fait intéressant, c'est qu'elle a une sorte, de plaisir à garder des vestiges d'elle-même. C'est-à-dire que dans une boîte, elle a conservé des rognures d'ongles, des touffes de cheveux, des dents de lait, et elle dit qu'elle... C'est son moi qui est avec elle dans cette petite boîte. J'ai trouvé que c'était très amusant. C'est une sorte de relique de soi-même.
Absolument.
Que nous pourrions tous avoir.
Elle dit, c'est mon moi en morceaux. Et chacun d'entre nous, on essaye de garder des vestiges du passé d'une manière ou d'une autre. Et elle les garde de cette manière-là, extrêmement matérielle, extrêmement viscérale. Et c'est sa manière à elle de garder des parts d'enfance. De conserver en effet des morceaux qui sont corporels.
Je ne sais pas si vous y avez pensé, mais il y a un point commun entre la grande sœur de votre roman, dont je rappelle le titre, Le soleil à mes pieds, et puis l'écrivain russe Dostoïevski. Dostoïevski avait un grand sentiment de culpabilité par rapport à la mort de son père. Et la grande sœur dans votre roman, elle a aussi un très très fort sentiment de culpabilité qui semble complètement parasiter et nuire totalement à son existence. La mort l'écrase complètement et guide ses pas et sa vie, en quelque sorte. Parce que quand elle est au restaurant, l'anniversaire de sa petite sœur, elle trouve le moyen de lui dire que les morts continuent de flatuler. C'est absolument incroyable, cette scène.
Oui, les deux sœurs, ont... ont emprisonné la mort de leur mère, parce que c'est ça dont il est question, leur mère morte prématurément, et elles ont cherché chacune à leur manière à garder cette mort vivante, comme on garde finalement toujours le souvenir des morts qui comptent pour nous, vivants d'une manière ou d'une autre. Et donc une effectivement avec des reliques comme ça, concrètes et techniques, et l'autre avec ses souvenirs, qui sont idéalisés comme le sont souvent les souvenirs d'enfance.
Alors, la petite sœur, elle a lu un roman de Lewis Carroll. Elle est dans le monde merveilleux de l'enfance, c'est Alice au pays des merveilles. Bon, la grande, elle, c'est au pays plutôt des cadavres, des morts. Quand elle discute avec les animaux, c'est avec des cadavres d'animaux. Elle adore, elle est fascinée par le corps presque en putréfaction. Il y a quelque chose de morbide chez cette grande jeune femme.
Oui, effectivement, la grande, elle s'est complètement construite sur l'idée que le corps est une chose qui perd de sa matière, et de fait, elle essaye elle-même, avec sa propre matière corporelle, de redonner vie à ce souvenir, alors qu'à l'inverse, la petite sœur, elle cherche à s'effacer le plus possible du monde et à ce que son corps n'existe quasiment plus. Elle mange très peu, elle s'épile de la tête aux pieds, elle lave chez elle tout ce qu'elle peut laver. Donc on a comme ça un rapport complètement opposé entre une sœur qui entasse, bouffe la vie, qui est un espèce de bulldozer, et à l'inverse, une petite qui essaye, elle, complètement de s'effacer. Tout ça pour effacer la mort, chacune à leur façon.
Il y a dans votre roman, Delphine Berthollon, cette phrase, je trouve assez formidable. La grande, elle, est heureuse. La grande est bonne à enfermer, mais disons, elle est heureuse. Est-ce que finalement, pour être heureux, il faut être un peu plutôt du côté de la folie ? plutôt d'une forme d'anormalité. Quand on est trop pur, trop normal, entre guillemets, on risque d'être malheureux. Si finalement on est un peu déviant, un peu du côté de la mort, on a peut-être plus de chances d'accéder au bonheur. Ce qui n'est pas vraiment le cas d'ailleurs à la fin du roman.
Non, je ne sais pas si c'est vraiment lié au bonheur. En tout cas, je sais que moi, ce qui m'intéresse chez les gens, chez les personnages a fortiori, mais chez les gens en général dans la vie, ce que je trouve touchant, ce sont les failles. Donc à partir de là, effectivement, ce sont les failles qui m'intéressent, ce sont les névroses qui m'intéressent. Et de fait, est-ce que c'est une manière d'accéder au bonheur ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce qui accroche à la vie et c'est ce qui accroche aux autres. Finalement, de ne pas être comme tout le monde et d'avoir sa singularité. Et voilà, je trouve c'est ce qui est joli dans l'existence et dans les rencontres, de ne pas être comme tout le monde.
Rappelons le titre du roman de Delphine Berthollon que vous venez d'entendre à notre micro, « Le soleil à mes pieds », en librairie, aux éditions Jean-Claude Lattès. Dans quelques minutes, on évoquera certaines facettes d'un musicien de génie, Django Reinhardt. Et c'est Alexis Salatko qui signe une biographie romancée du plus célèbre manouche de l'histoire de la musique. On y revient après la pause. D'abord, voici les Bébés Brunes, Cul et Chemise. Excellente soirée sur votre radio locale. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la suite du compte-rendu de la 6e édition de Livres en Vigne.
Je voudrais tant que tu me dises qu'il m'arrive à la chemise, que jamais pour un mal tu t'emballes, que tu scotches, tu méprises toutes ces ringardises, que c'est les bras de bas tu remballes. Les roules ma poule, les Roméo, je leur casse volontiers un gros sucre sur le dos. Mais je voudrais tant que tu me dises qu'en vain ils s'éternisent et connaissent ces canailles. Toi tu bats, qu'à tout vent tu les brises, m'appelles pas friandise. Quand de temps, trois scandales, tu t'en. Trois sucres sur le dos. Mais je voudrais tant que tu mises sur ma loyauté promise, et que jamais ton cœur sans canaille. Dis-moi mon ange, tu courtises à son lieu des surprises de nos nuits sur les pas sous l'étoile. Je voudrais tant que tu me dises son écu et chemise, que jamais pour un mal tu t'en.
Nous poursuivons notre compte-rendu de la 6e édition de Livres en Vigne qui s'est tenue les 28 et 29 septembre dernier dans le prestigieux cadre du château du Clos de Vougeot en Côte d'Or voisine, une manifestation littéraire dédiée à l'art de vivre au cœur du vignoble. On a eu l'occasion bien évidemment de rencontrer un très grand nombre d'écrivains. Tous ne pourront pas ce soir être représentés dans notre émission de compte-rendu. Je voudrais aussi dire que Livres en Vigne, chaque année, c'est trois prix littéraires. D'abord, le prix du Clos de Vougeot qui en fait récompense un ouvrage sur le vin, sur la vigne et l'art de vivre, eh bien le prix du Claude Vougeot 2013 a été attribué à Fred Bernard pour son livre Chronique de la vigne aux éditions Glénat, tandis que le prix du domaine Albert Bichot, lui, récompensait un roman d'Olivier Blais intitulé « Le maître de café » aux éditions Albin Michel. Et puis le prix du premier roman Méo Camuset, qui est parrainé donc par le domaine Camuset, a été attribué à Anne Icard pour son livre « Ce que je peux te dire d'elle » aux éditions Robert Laffont. Des prix que vous pouvez retrouver avec plus de détails et de précisions sur le site internet de livresenvigne.com. Nous avons rencontré Alexis Salatko, auteur d'une biographie romancée consacrée au musicien Django Reinhardt, disparu il y a 60 ans en mai 1953. La biographie romancée d'Alexis Salatko a pour titre « Folle de Django » et c'est un roman disponible aux éditions Robert Laffont. Alexis Salatko, à notre micro.
J'ai l'habitude d'écrire des biographies romancées depuis un certain nombre d'années. Et j'ai trouvé que l'histoire qu'on m'a racontée de Maggie et Django, puisque c'est l'histoire de Django Reinhardt et d'une résistante qui l'a aidé pendant la guerre à essayer d'échapper aux nazis, j'ai trouvé que cette histoire était éminemment romanesque et que le personnage lui-même de Django était romanesque. Et je préfère la biographie romancée à la biographie pure. Si on considère l'histoire comme une tranche d'emmental, le biographe, lui, va plutôt dans la pâte et moi dans les trous. Et je préfère combler ces trous par mon imagination.
Roman donc sur la carrière exceptionnelle de Django Reinhardt. Donc il est né en 1910, il meurt très jeune, hein, 43 ans. Il est vrai aussi quand même que c'est un homme qui vit, on ne peut pas dire qu'il joue à la roulette russe, mais il a une vie d'excès en tout cas.
Ah oui, ça, il a brûlé la vie par les deux bouts. C'est un manouche, donc il a vécu dans la misère. Hein. C'est un enfant de la misère qui tout d'un coup s'est trouvé propulsé sur la grande scène internationale, qui est passé dans des conditions de vie absolument extraordinaires. Mais c'est quelqu'un qui n'a jamais renié sa culture manouche, ses valeurs manouches, et qui a toujours mis sa liberté d'artiste avant tout le reste.
Alors, un être insaisissable, au point que Cocteau l'avait baptisé Fils du Vent. Et donc, Django Reinhardt apparaîtra dans une séquence des Enfants Terribles.
Absolument, Jean Cocteau tombe amoureux fou hein, de Django Reinhardt, qui était très beau, hein, il faut le rappeler. Hein. Et surtout, il va finalement fasciner cette aristocratie parisienne, qui, à juste titre d'ailleurs, qui est complètement fascinée par son génie. Mais moi, je ne retiendrai pas simplement ça de Django Reinhardt, c'est surtout sa grande période avec Stéphane Grappelli, le Hot Club de France, qui jusqu'à la guerre va faire des tournées à travers toute l'Europe. Ensuite, il va y avoir un deuxième quintet, le quintet à Hanche, sous l'occupation nazie. Et moi, c'est cette période, le swing sous l'occupation, qui m'a intéressé. Comment on peut être manouche et remplir tous les soirs le Moulin Rouge devant un public composé d'officiers allemands. Et ça m'a vraiment intéressé, parce que c'est vraiment un paradoxe que Django Reinhardt, alors que tous ses frères Digan sont déportés, lui connaît la période la plus faste de sa vie. Et j'ai découvert que finalement les nazis avaient tout intérêt à utiliser Django Reinhardt pour remplir les salles de cabaret et montrer de Paris une image merveilleuse alors qu'on est en pleine occupation. Seulement en 1943 les choses se passent très mal pour lui et il doit fuir. Et l'histoire de l'évasion de Django occupe une très grande place dans mon roman.
Alors Django Reinhardt va se réfugier du côté de Thonon-les-Bains.
Absolument. D'ailleurs, c'est à Thonon même hein, que j'ai découvert le plus grand nombre de témoignages sur Django qui m'ont permis de bâtir ce roman. Et à Thonon même, il va travailler dans un endroit qui s'appelle le Savoie-Bar avec ses frères Romanichel, les Hoffmann. Il va bâtir un orchestre, il va construire un orchestre. C'est comme s'il repartait à ses débuts. Et là, il va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va faire découvrir le jazz à tous ces lycéens, tous ces jeunes gens de Savoie, de Haute-Savoie, qui ignoraient toute cette musique. Et il va se passer une tragédie terrible, c'est que ces jeunes gens vont organiser un bal clandestin et les nazis vont faire un oradour avant l'heure, enfin, avec ces jeunes gens qui avaient la musique de Django dans la peau au moment où leurs bourreaux ont surgi. Et cette histoire m'a bouleversé, et ces histoires autour de Django m'ont bouleversé. Et j'avoue que plus j'avançais dans ma recherche, plus j'allais de surprise en surprise. Et ce personnage qu'on décrit un peu à tort comme quelqu'un d'un peu enfantin et capricieux était beaucoup plus complexe humainement et surtout artistiquement.
Et vraisemblablement aussi dévoré par des démons.
Il était complètement dévoré par des démons. C'était un très grand joueur. Tout l'argent qu'il gagnait en jouant de la guitare, il le dépensait aux tables de jeu, que ce soit au billard, au poker, enfin. C'est quelqu'un qui n'était bien que les poches vides, je dirais, et libre.
Dans votre roman, par rapport aux compétences et notamment aux capacités auditives de Django, il avait une oreille, comme tous les très grands musiciens. Vous écrivez, à 50 mètres, il pourrait entendre un mulot pisser sur une boule de coton.
Oui, j'aime bien. Alors ça, vous voyez, c'est le genre de formule que j'aime bien trouver dans les romans. Oui, j'ai dû lui inventer une langue à Django. Je me suis dit, mais comment il parle, cet homme? Comment s'exprime-t-il? Comment s'exprimait-on à cette époque?
Existe-t-il des interviews de Django Reinhardt?
Il en existe deux ou trois, dont une très importante, lors d'une répétition de sa messe. Il a écrit une messe pour ses frères Romanichel, qui le situe au niveau de Jean-Sébastien Bach. Or, les partitions ont disparu. Il ne reste aujourd'hui que deux portées. Et on a la chance d'avoir une interview très courte de Django à la chapelle de l'Institut des Jeunes Aveugles. On entend sa voix de basse extraordinaire et on entend surtout en fond sonore le final de sa messe. Et ça, c'est très très important parce que cette messe, à mon avis, a dû être son chef-d'œuvre, à mon avis. Et l'histoire de cette messe, voyez-vous, on est en train d'en faire un film. On est en train de faire l'adaptation cinématographique pour essayer, avec un grand compositeur de musique de film, de restituer cette messe.
Alors, il faut dire que en janvier 1929, la roulotte dans laquelle il vit prend feu et il n'en sort pas indemne.
La roulotte et la roulette, vous voyez, c'est vraiment une histoire de roulette et de roulotte. Non, c'est vrai qu'il a 18 ans, il vient d'être engagé par le grand chef d'orchestre Jack Hilton. Il rentre dans sa roulotte donc, pour annoncer à sa femme qui était enceinte qu'ils vont être riches. Il ne veut pas allumer, sa femme vendait des fleurs artificielles à l'entrée des cimetières. Django se prend les pieds dans une gerbe de fleurs, sa femme allume une bougie, la bougie lui échappe. Les fleurs s'embrasent, Django est entouré de flammes et il va perdre deux doigts dans l'incendie de sa roulotte. Et c'est ça le tournant de sa vie. On pense qu'il est fini en tant que musicien et non. C'est à partir de ce moment-là, grâce à un courage extraordinaire et surtout une inventivité extraordinaire, il va inventer une technique avec 8 doigts seulement et faire de son handicap un atout.
Alors il y a l'épisode américain, mais Django Reinhardt n'aime pas beaucoup les États-Unis. Il ne se sent pas à l'aise dans ce pays. Et puis il en revient déçu quand même.
Je dirais que c'est un gamin des fortifs qui est fou de cinéma américain. Quand il a 9-10 ans avec son frère, ils vont voir les films américains, ils sont fous d'Amérique. Il rêve d'aller en Amérique. Toute sa vie, il rêve d'aller se produire devant les Américains. Et ce qui va se passer, c'est que son rêve va se fracasser à la réalité. L'Amérique est un pays de businessmen. C'est un pays où on ne rigole pas justement avec la discipline. Et l'attitude de Django, son tempérament, son comportement même, ne vont pas plaire aux Américains. Le soir du grand concert à New York, à Carnegie Hall, Django Reinhardt, au lieu d'aller jouer, préfère aller prendre un pot avec Marcel Cerdan qui préparait son championnat du monde. Toute la critique américaine était dans la salle, l'attendait, et évidemment, il arrive à minuit moins le quart, avec Duke Ellington, ils improvisent 2-3 morceaux. Ça ne le fait pas du tout. Et effectivement, je pense que cette Amérique-là n'était pas faite pour lui. Pas du tout. Par contre, il est revenu brisé de sa tournée américaine, il est revenu meurtri. Et les dernières années de sa vie ont été extrêmement tristes. Parce qu'il s'est éloigné de la musique, il préférait faire de la peinture, il pensait que son œuvre picturale était supérieure à son œuvre musicale, ce qui est complètement aberrant. Et surtout, il s'est détaché d'un genre qu'on ne lui permettait pas de poursuivre, c'est le bebop. Il a découvert le bebop avant tout le monde, il a dit que c'était ça l'avenir du jazz, mais les promoteurs du Hot Club de France préféraient qu'il joue ses morceaux d'avant-guerre, qui avaient eu tellement de succès. Et le fait qu'on ne lui permette pas d'inventer sa musique, de continuer à créer des choses, a conduit à son silence. Car il faut parler, à propos de Django, d'auto-limitation de l'art. Comme Arthur Rimbaud, comme Jacques Brel, Django a arrêté de jouer. Un an avant sa mort, il a décidé qu'il avait fait le tour de la question. Et puis il est mort. Il en est peut-être mort d'ailleurs, d'avoir arrêté de jouer. Il meurt d'une attaque cérébrale. Mais pour moi, dans mon esprit peut-être un peu romanesque, je pense qu'il est mort de ne pas avoir pu continuer à faire ce qu'il aimait faire. Et ça a été un terrible drame.
Passionnant destin que celui de Django Reinhardt a retrouvé donc dans l'ouvrage d'Alexis Salatko que vous venez d'entendre, roman intitulé « Folle de Django » aux éditions Robert Laffont, un livre totalement passionnant actuellement chez vos libraires. Escale musicale, nous vous proposons Buridan, Badaboum. Restez-nous fidèles, on se retrouve dans quelques minutes, toujours à bord de Wagon Livre sur Radion. Excellente soirée.
Elle se lève à l'ouest en se prenant les murs. Le sourire du soleil qu'elle reçoit comme une injure. Elle fait tout pour se plaire, que rien ne la dérange. Mais qui se fait tout miel les mouches un jour le mange. Derrière son sourire et son front si droit, sa grimace la fait se tordre à angle droit. Le pas boiteux de ces gens soupçonnés d'enthousiasme douteux. J'suis pas la boum boum, j'suis pas la boum. J'suis pas la boum boum, j'suis pas la boum boum, para para. Elle fait partie de ces gens qui ne se pensent qu'utiles, qu'objets de tout regard. Quand elle sauve l'imbécile, heureux de son sort de crétin, qui l'encombre de rêves et de beaux lendemains. Elle est là pour lui dire, regarde devant toi, tout ce qu'il te reste à faire. Oh, te réjouis pas, cesse d'être fier de plus. Regardez derrière, c'est là qu'on avance plus. J'suis pas la boum boum, j'suis pas la boum boum, pas là. J'suis pas la boum boum, j'suis pas la boum boum, pas là, pas là. J'suis pas la boum boum, j'suis pas la boum boum, pas là, pas là. J'suis pas la boum boum. Indispensable à la bonne tournure de notre terre, sans qui, sans elle, sans rien, tout irait de travers. En sauveuse, le super héros, le rôle le plus facile, le rôle le plus beau. Alors seulement les enliser jusqu'aux genoux dans cette terre, seulement les sans espoir veulent qu'on s'y affaire. Adorer les paumés, les poisseux, on n'aime pas les gens heureux. J'suis pas la boum boum, j'suis pas la boum boum. J'suis pas la boum boum, j'suis pas la boum boum, bala bala. J'suis pas la boum boum, j'suis pas la boum boum, bala bala. J'suis pas la boum boum, j'suis pas la boum boum, bala bala. Boum boum, boum boum, bala bala. Boum boum.
Badaboum, à l'instant sur Radion, c'était Buridan. Vous venez de vous caler sur la fréquence de votre radio locale. Eh bien, sachez que vous êtes monté à bord de Wagon Livre, la seule heure littéraire sur les ondes en Bourgogne depuis novembre 2010. Bientôt 3 ans que ce rendez-vous culturel hebdomadaire vous est proposé sur l'antenne de votre radio locale. En tout cas, merci. Merci de votre écoute fidèle et attentive. Et ce soir, nous vous offrons les fruits de notre belle vendange. Une récolte, effectivement, de reportages enregistrés au château du Clos de Vougeot, au cœur du vignoble et au cœur du salon Livres en Vigne qui s'est tenu les 28 et 29 septembre dernier, un salon qui accueillait une centaine d'auteurs en dédicace, mais aussi des animations, des tables rondes, des dégustations et des expositions, notamment une exposition sur l'écrivain Colette. En tout cas, un grand moment de culture, de plaisir et de convivialité que nous partageons ce soir avec vous à travers les reportages que nous vous soumettons. Il a 31 ans et signe son deuxième roman paru en avril dernier chez Grasset, un roman qui a pour titre « La vie qu'on voulait ». Ses personnages ont une trentaine d'années en 2010 et ils portent déjà en eux l'amertume des vies gâchées. Lou, Eva, Théo, Quentin et Manel, tous issus de la classe moyenne, ont un compte à régler avec la société et avec la vie qu'ils voulaient. Voici Pierre Ducrozet.
Oui, et surtout qui ont surtout avec la société, c'est-à-dire qu'ils ont la société pour l'appeler d'une certaine manière, ne leur a pas donné de perspective. Ils n'ont pas eu de perspective sociale, politique, d'espoir. Donc c'est pour ça que je l'appelle grise, c'est que dès le début l'horizon est plombé. Alors c'est pas non plus l'enfer, effectivement, comme le rappelait hier Gisbert, il n'y a pas de guerre mondiale et on n'a pas de choses comme ça, mais il n'y a pas non plus de grands soirs possibles ou de d'ascension, je sais pas, sociale, et surtout de cet espoir littéraire, cette quête un peu rimbaldienne qu'ils ont, est aussi tout de suite tout de suite mis à défaut. Donc ils sont ils sont entre deux, un peu là.
Ils sont en tout cas écrasés par leur appartenance à la classe moyenne. Ils sont écrasés par l'ennui d'une certaine manière, que vous appelez l'ennui une taxe obligatoire sur la vie. Il y a même un personnage qui s'emmerde comme un mort. Écrivez-vous, ça m'a beaucoup fait sourire. Mais le personnage, à mes yeux, qui est le plus impressionnant, qui a le plus d'épaisseur, c'est Manel, parce que il a un credo qui est « je tue, donc je suis ». Enfin, il revisite carrément le credo cartésien.
Voilà, c'est ça. Lui, il est allé assez loin dans cette vie qu'il voulait, que tout ce groupe voulait. Et il est allé tellement loin qu'il est tombé et dans la folie. Et il voit le monde comme un vaste jeu d'échecs, où il déplace les pièces face à un adversaire imaginaire. Donc il voit le monde comme un vaste jeu d'échecs où il déplace les pièces face à un adversaire imaginaire. Et quand il mange un pion ou une tour, par exemple, il doit vraiment tuer la personne dans la vie. Donc oui, il est devenu un peu dingue. Et les autres personnages essaient soit de le rattraper, soit ils sont fascinés par lui, soit ils sont repoussés. Il y a tout ce jeu face à un ange noir que serait Manel, et eux sont restés à l'arrière, ils le regardent comme ça passer, comme une espèce de comète.
La vraie question, c'est la partie est-elle perdue d'avance ? C'est-à-dire, est-ce que le monde va gagner ?
Oui, sans doute. On le voit assez vite que le monde va gagner. Et ça sera la deuxième partie du livre où là, la partie est mal engagée. Et que fait-on à partir de là, quand on sait que le monde va sans doute gagner la partie contre nous ? Qu'est-ce qui reste ?
Alors, il est aussi beaucoup question du thème de l'homme moderne. L'homme moderne, vous écrivez, l'homme moderne est un type qui parle seul devant une caméra. Bon, c'est une définition un peu abrupte, mais qu'est-ce que l'homme moderne alors ?
Qu'est-ce que l'homme...
La plume,
ouais,
du crochet.
Qu'est-ce que l'homme moderne ? Donc oui, un homme qui, je pense, monologue dans le désert. Donc là, dans ce cas-là, dans le désert médiatique, mais même dans un désert de sable. Il parle, personne ne l'écoute, parce que comme tout le monde ne parle que de soi, plus personne n'écoute les autres. Et ses paroles s'effilochent comme ça. Et l'homme moderne, c'est aussi un homme qui ne sait plus trop quoi faire de sa modernité et qui a besoin peut-être d'un autre... d'une bonne guerre, ils en parlent aussi, d'une bonne guerre, l'arrivée d'un messie ou d'un poète maudit. Il y a besoin d'un tremblement de terre, quelque chose là. Ça va.
Alors,
plus.
Le style de Pierre Ducrozet, c'est un style qui, au premier abord, moi m'a un petit peu surpris. Je n'étais pas habitué à un style très... La phrase est courte, la phrase est parfois nominale, c'est quelque chose, il y a un rythme, quelque chose de très sec. Moi, je dirais presque, ce sont des phrases comme des fléchettes qui sont lancées comme ça sur une cible, qui est la feuille blanche, et hop, il y a plein de phrases fléchettes, ça vous plaît ?
Ça me plaît, ouais.
De même que le livre qu'écrit Sean Cale, qui est un imposteur d'une certaine manière, est une sorte de livre obus. Vous avez écrit un livre obus dans le paysage littéraire qui n'est pas habitué aux éclats d'obus.
Ah, mais c'est super. C'est, si on sent des fléchettes, un obus, quelque chose, ça veut dire qu'on est dans le domaine de la peau, qui est aussi un des thèmes du livre, et que l'écriture ricoche sur notre corps, sur notre peau. Donc ça, c'est bon. C'est ce que je désirerais, c'est que soit une écriture viscérale et qu'il y a un rythme, quelque chose qu'on entende, qu'on le sente, qu'on le voit, etc. C'est ça qui m'intéresse, c'est que ça résonne et qu'on entende quelque chose, une voix. Et
ce style, c'est peut-être aussi une manière cathartique d'exorciser l'angoisse de la mort, l'angoisse toujours d'un avenir incertain pour chacune et chacun d'entre nous, finalement, parce que nous sommes, comme le disaient les Grecs dans l'Antiquité, nous sommes des éphémères. Le corps ne dure pas, le corps peut chuter, peut tomber. Il est souvent question, justement, dans votre roman, Pierre Ducrozet, de cette menace de la chute du corps.
Oui, c'est vrai. Il tombe souvent. Et donc, vous disiez, oui, l'écriture serait peut-être ça, en fait, une voie contre cette chute des corps. Ce serait notre seul espoir, notre seule musique divine. Notre seule salvation, quoi, peut-être.
Un roman un brin désabusé mais résolument séduisant, c'est un roman sur la tristesse contemporaine, donc d'une jeunesse européenne. C'est La vie qu'on voulait, de Pierre Ducrozet, aux éditions Grasset. Passons à l'état du ciel. Non, je ne vais pas vous donner des informations sur la météo de demain, pas du tout. L'état du ciel, c'est le titre du dernier roman de Pierre Péjut, qui était présent à Livre en Vigne les 28 et 29 septembre dernier. Pierre Péjut, directeur de programme au Collège international de philosophie. Il est l'auteur de plusieurs livres aux éditions Gallimard, dont La petite chartreuse, portée à l'écran en 2005. L'état du ciel, que vous trouverez en ce moment parmi les nouveautés de la rentrée littéraire, raconte l'arrivée d'un ange dans la vie d'un couple au bord de la rupture. Pierre Péjut.
Il y a cette idée, quelque chose d'heureux peut-il se passer? Et c'est pour ça que j'ai fait intervenir un personnage tout à fait inattendu, qui est un personnage d'ange, ce qui renvoie à la thématique de l'ange gardien, qui appartient pratiquement à toutes les cultures. Hein, quand on cherche un petit peu dans les traditions anthropologiques et autres, et religieuses, ça appartient à toutes les cultures. Et donc j'ai un personnage d'ange qui devient très romanesque, qui est l'ange Raphaël.
Alors ce qui est formidable, c'est que cet ange, il se retrouve aux côtés d'une femme qui trouve la mort dans un accident de voiture. Il est tombé du ciel, il ne se rappelle de rien, il ne connaît bien sûr pas son nom, mais c'est une stratégie de cet ange.
C'est une stratégie.
C'est une stratégie. Et il descend du ciel, il vient sur Terre, il n'a pas de nombril parce que suite à un examen médical, il n'a pas de nombril, ce qui est amusant. Ouais. Et évidemment, il vient apporter un petit peu de bonheur dans un couple qui effectivement...
Il fait son travail d'ange, c'est-à-dire que le livre s'appelle L'état du ciel parce que j'ai inventé un ciel qui est le ciel de toutes les religions, hein, c'est-à-dire un ciel très général qui est aussi bien l'Olympe que le ciel des religions monothéistes. Et il y a des anges, hein, et les anges s'ennuient un peu parce qu'ils n'ont pas tellement de nouvelles de Dieu et Dieu ne les charge de rien, on ne sait même pas si Dieu est encore là. Et du coup, l'ange fait son travail d'ange, c'est-à-dire est-ce que je peux faire un peu de bien ? Et il ne sait même pas s'il sait encore le faire. Donc il descend parmi les humains et il trouve, comme vous le disiez, un stratagème pour descendre.
Voilà. Et la mécanique angélique est enclenchée.
Il se dit, à partir de maintenant, il faut que je fasse quelque chose. Alors il est tombé, on peut dire, presque par hasard, chez ces gens-là, c'est-à-dire un homme, une femme, une région de France, un petit village, une petite ville. Et il se gratte un peu la tête ou sa tête d'ange, on ne sait pas trop, d'ailleurs j'ai pas précisé la couleur de cheveux, s'il était blond, brun, etc. ou roux, et il se dit qu'est-ce que je viens pouvoir faire, et il va trouver différentes idées qui vont marcher plus ou moins bien jusqu'à ce que peut-être effectivement les choses se renversent. Et c'est ça qui m'intéressait, parce que c'est un livre sur le malheur, mais surtout sur est-ce que le malheur peut se renverser en son contraire au moment le plus inattendu. Et le miracle dont je parle beaucoup dans le livre, c'est tout simplement une chose simple, c'est une possibilité à laquelle on ne songeait pas du tout.
Mais le miracle aussi, Pierre Péjut, il tient à la présence d'un enfant.
Oui, c'est-à-dire que le drame auquel est confronté le couple tourne autour, ça a été dit, dont je ne révèle pas, ça a été dit par d'autres critiques ou lecteurs, leur drame tourne autour de la perte assez dramatique et violente d'un enfant. Et évidemment, qu'est-ce qui peut arriver quand on a, pour un homme et une femme, et surtout pour la mère, qu'est-ce qui peut arriver quand on a dû vivre un tel événement ? Et l'ange n'a pas pris un petit travail, si je peux dire, puisque c'est face à un tel malheur, à un tel drame, qu'il va devoir essayer d'aider des humains, ce qu'il appelle lui les malheureux mortels, à remonter la pente. Je mêle dans la mesure mon ciel, puisque le livre se passe tantôt sur Terre, tantôt au ciel, mais dans un ciel qui... Il y a un peu d'humour aussi, le ciel est habité par tous les dieux qui errent là, un peu comme des âmes en peine.
Oisifs, incompris ou abandonnés.
Abandonnés, peut-être, par les... Il n'y a plus assez de croyants pour... voilà. Et du coup, le ciel et d'où vient l'ange, tout n'y va pas très bien, et c'est un peu le ciel et la terre qui se reflètent. C'est-à-dire, ça va mal sur Terre, on le sait, puisque mes personnages, ils auraient vu des tas de choses. On entend quand mon personnage d'homme conduit, qui est un médecin aussi, conduit sa voiture ou part en mission, on entend un peu les nouvelles, les radios, il met la radio à bord de sa voiture. Et on s'aperçoit que sur Terre, ça ne va pas, mais au ciel, ça ne va pas non plus. Et la question est, pour moi, c'est une question très camusienne, si vous voulez. Donc qui...
D'ailleurs, le roman commence en paraphrasant l'étranger, enfin, en imitant l'étranger.
Voilà, c'est un petit clin d'œil de ma première phrase, je ne dirai pas laquelle à l'instant, mais qui est un clin d'œil aux gens qui connaissent Camus et l'étranger, et la très célèbre première phrase de Camus.
Alors, cette vision camusienne, Pierre Péjus.
Oui, c'est cette idée que, au fond, enfin, dans ce qu'on pourrait appeler avec peut-être pas mal de guillemets, la morale d'Albert Camus. Il y avait cette idée, ne cherchons pas à aller vers des lendemains qui chantent et vers des améliorations politiques, sociales, voire individuelles, par des grands principes, qu'ils soient économiques, marxistes, etc. Mais la première chose, c'est déjà, essayons de faire, là où je me trouve, un petit quelque chose. Et du coup, la démarche concrète, humaine, là où je me trouve, qui n'est pas suffisante, bien sûr, c'est important pour que les choses, quelquefois, se modifient, se transfigurent. Or, mes personnages, que ce soit celui de Mathias Clament dans le livre, médecin humanitaire, ou que ce soit l'ange qui devient de plus en plus humain, sont deux êtres, entre autres, mais les autres, qui essayent de faire ce qu'ils peuvent là où ils sont. Et ça, en soi, c'est très important déjà, pour améliorer.
Il est beaucoup question de notre monde, de notre planète qui vont mal. Vous écrivez d'ailleurs dans le roman, dont je rappelle le titre, hein, L'état du ciel, « L'humanitaire, ce n'est plus à l'autre bout du monde, mais chez nous ».
Oui, bah ça c'est une réalité. C'est-à-dire que dans le livre, je dis que au ciel ça va mal parce que les dieux sont en mauvaise situation, mais sur Terre ça va peut-être même de plus en plus mal. Pas plus tard que hier, les communications du GIEC sur le réchauffement climatique sont des choses catastrophiques auxquelles personne ne prête attention, mais nous avons la catastrophe au-dessus de nous, autour de nous, promise. On se fiche complètement de ceux qui vont nous suivre, à savoir nos enfants, petits-enfants, et ceux qui vont devoir vivre dans ce monde. Des catastrophes, il y en a partout, et des catastrophes créées par les humains. Donc, c'est vrai que ça ne va pas fort, quoi.
C'était Pierre Péjus, romancier et essayiste. Je rappelle le titre de son dernier roman, L'état du ciel, et c'est aux éditions Gallimard. Wagon Livre, votre émission littéraire jusqu'à 22h. Nous vous souhaitons une bonne soirée sur Radion. Tout de suite, pause musicale. Voici La crise, chantée par Da Silva.
Il reste tant de choses à faire. On voit bien le désordre. Qu'est-ce que l'on a foutu hier pour qu'aujourd'hui on s'étonne qu'on coule les affaires. On nous donnerait bien des ordres, mais j'en ai vraiment rien à faire. Ce que je préfère, c'est tu es nu et que je suis sourd. Tout est sans dessus dessous. Le monde semble être vaincu. Dieu que j'aime ton petit cul. Quand tu es nu et que je suis sourd. Tout est sans dessus dessous. Le monde semble être vaincu. Dieu que j'aime. N'attendez surtout rien de nous, posté à l'horizontale. On sent bien la gravité de l'ascenseur social. On a compris vos discours et j'en ai vraiment rien à faire. Ce que je préfère, c'est quand tu es nu et que je suis sous. Tout est sans dessus dessous. Le monde semble être vaincu. Dieu que j'aime ton petit cul. Quand tu es nu et que je suis sous. Tout est sans dessus dessous. Le monde semble être vaincu. Dieu que j'aime ton petit cul. Ce n'est plus le moment et j'en ai vraiment.
Bonsoir David Fuenkinos.
Bonsoir.
Je suis content. Moi, je n'ose pas vous tutoyer. Je n'ose pas tutoyer David Fuenkinos. En tout cas, comment se porte le président de cette sixième édition de Livre en Vigne qui va se terminer d'ici quelques heures?
Mais oui, voilà. Mais vous pouvez me tutoyer, surtout après deux jours passés ensemble, avec la dégustation de tous ces vins de Bourgogne. On est tellement heureux, mais aussi épuisés, voilà, de ce bon week-end. Alors, c'est vrai qu'on ne fait plus l'effort du vouvoiement, mais en tout cas, voilà. Moi, j'ai été très heureux de présider. C'était un honneur.
Tu as connu Livre en Vigne il y a 4 ans.
Exactement. Je suis venu il y a 4 ans pour la première fois. Merveilleux souvenir. J'ai dit hier, pendant le dîner de la confrérie, que j'ai mis 4 ans à m'en remettre. Voilà, parce que voilà, j'avais un souvenir merveilleux et j'étais très heureux de revenir. Et puis, surtout en qualité de président. Et puis, d'avoir l'honneur d'être intronisé. Et voilà, je suis maintenant chevalier de la confrérie du Tasse de Vin. Je vais défendre les vins de Bourgogne. J'ai juré sur l'honneur de défendre les vins de Bourgogne. Et voilà, c'était vraiment une soirée exceptionnelle. Et puis le salon a été on est dimanche fin de journée, il y a eu un monde fou.
Donc tu vas mieux?
Ah, par rapport à mon dernier livre, oui, je vais mieux. C'est vrai que depuis que j'ai sorti ce livre, on me demande souvent si ça allait pas bien avant. Et voilà, moi j'écris pas des livres autobiographiques, mais mon personnage qui a eu mal au dos et qui traverse plein d'épreuves dans ce livre.
Et ce qui est intéressant, c'est que quand même ce mal de dos déclenche chez lui moult interrogations sur sa propre existence,
son
rapport au monde, à sa famille et à lui-même.
Exactement, c'est assez moderne, c'est vraiment une épopée un peu psychosomatique. Il cherche finalement dans sa propre vie la raison de son mal de dos. Il a accumulé beaucoup de stress, de finalement de choses qu'il a peut-être ratées. Et en fait, ce mal de dos lui le pousse à faire un bilan de sa vie.
David, quelle a été ta dernière lecture? Tiens, puisqu'on est quand même dans la rentrée littéraire, les prix vont être décernés. Ils commencent mais ils vont être décernés.
J'ai lu quelques livres de certains amis. Bon, j'ai adoré le livre de Serge Chalandon, celui de Karine Thuil. J'ai lu pas mal de livres de la rentrée. J'ai adoré Monica Sabolo, par exemple. Mais sinon, c'est vrai que je lis beaucoup de livres allemands. Comme Klaus Mann, qui est des années 30. J'ai écrit un livre en ce moment sur une artiste allemande, Charlotte Salomon, une peintre qui est assez peu connue. Donc je suis quand même plutôt plongé sur des livres de cette époque, pour m'imprégner pendant l'écriture de ce livre qui est très important pour moi.
L'auteur de la délicatesse à notre micro, David Fuenkinos, qui présidait la sixième édition de Livre en Vigne. C'était au château du Clos de Vougeot les 28 et 29 septembre prochains. Rendez-vous donc maintenant en 2014 pour la septième édition qui pourrait, d'après nos informations, être présidée par une femme. Une femme qui, d'ici là, pourrait même intégrer l'Académie française. Voilà quelques indices, peut-être, pour deviner qui sera la marraine de la prochaine édition de Livre en Vigne. En tout cas, on remercie et on embrasse avec beaucoup d'affection Evelyne Philippe, l'organisatrice de ce formidable salon au cœur du vignoble. Rendez-vous, Evelyne, en 2014. Pour vous qui nous faites la gentillesse de nous suivre fidèlement, je vous donne rendez-vous mercredi prochain, 16 octobre, toujours à partir de 21h, même fréquence, et sur internet, sur le www.radion.fr, pour une deuxième partie de compte-rendu du Salon du Livre, Livre en Vigne. Cette fois-ci, nous donnerons la parole à des auteurs et des éditeurs bourguignons, notamment les éditions de l'Armançon, à travers les interviews d'Ignacio Catalan, qui nous parlera de son dernier roman, mais aussi de Jean Barre pour un essai consacré au Charivari. On donnera la parole également à David Demartis pour les éditions du Murmure. On mettra un coup de projecteur sur un polar coup de cœur de Nathalie Garance aux éditions In Octavo. Et puis nous aurons le plaisir de nous entretenir avec Jean-Paul Sterck, photographe, qui a réalisé avec l'écrivain Christian Limousin un ouvrage de photographie consacré au vignoble vézelien. Cet ouvrage a pour titre Bourgogne-Vézelay. Il est disponible aux éditions Rhubarbe, l'édition Rhubarbe dirigée par Alain Quévès, à Auxerre. On en reparle en tout cas mercredi prochain. C'est à bord de Wagon Livre, 16 octobre, 21h sur Radion. Et puis n'oubliez pas, rendez-vous au Salon du Livre de Migennes ce dimanche 13 octobre à partir de 10h jusqu'à 18h30, un salon qui, pour sa 9e édition, a retenu le thème « Histoire et mémoire populaire » avec des invités d'honneur prestigieux, Claudine Vincenant, Arnaud Chasserie, Thierry Séchant, Didier Cornaille, Pascal Brunner, Yves Duteil, l'écrivain et cinéaste Gérard Mordilla, sans oublier le journaliste sportif Nelson Montfort, qui viendra présenter une biographie de Charles Trenet. Il faut bien sûr préciser qu'il y aura des expositions au cours de ce salon, notamment une exposition sur les châteaux de Lyon à travers les cartes postales de l'association Visualia, un hommage à Jean Cocteau, des photos et des documents présentés par les éditions Nicole Vaillant, et une exposition sur le cirque préparée par les résidents de l'EPAHD de Migennes et les enfants des centres de loisirs du Migennois. Les éditeurs présents sont nombreux. Les éditions Nicole Vaillant, les éditions Raison et Passion, La Renarde Rouge, les éditions du Masque d'Or, La Gazette 89, les éditions du Bout de la Rue, les éditions de la Frémirie et les incontournables éditions de l'Armançon, avec la participation des libraires. Librairie Joffac de Toussy, Librairie Oblique à Auxerre, Librairie Plume et Images de Tonnerre, Bruno Tarier, la librairie historique d'Auxonne, sans oublier l'univers BD 89. Bref, rendez-vous au 9e Salon du Livre de Migennes ce dimanche 13 octobre de 10h à 18h30. L'entrée est libre et c'est un beau moment et une très belle occasion de rencontrer un très grand nombre d'écrivains. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à toutes et à tous. Voici Pop Rock Collection présentée par Eric. Bonne soirée et bonne nuit. Au revoir à toutes et à tous.